France Info.
Bonsoir, une édition un peu spéciale, il faut le dire. Des informés en levée de rideau des rencontres économiques d'Aix-en-Provence ce week-end sur le thème renouer avec la confiance. Il y a de quoi faire. Nous évoquerons le bras de fer autour du bac, notre sondage Odoxa sur l'Europe, la nouvelle police fiscale et Villani qui défie Griveaux à Paris avec nos invités. Bonsoir à vous, Claire Hédon.
Bonsoir.
Bienvenue, présidente d'ATD Quart Monde et responsable des programmes de RFI. Avec nous également, bonsoir à vous. Bienvenue. Yann Algan.
Bonsoir.
Vous êtes doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po, économiste et membre du Cercle des économistes. Vous interviendrez tous les deux aux rencontres d'Aix. Également invité ce soir, nos deux expertes. Bonsoir Sophie de Menton.
Bonsoir.
Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et bonsoir et bienvenue Virginie Pradel, présidente, ravie de vous retrouver, de l'Institut de recherche fiscale économique Vauban, notre spécialiste pour les informer des questions budgétaires et fiscales. Le rappel. Donc, tous ces sujets dans un instant. Nous sommes ensemble hein, jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Sabotage, le mot a été lâché par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a fait un point lors d'une conférence de presse en fin de journée sur la grève des correcteurs, parlant d'une ultra-minorité.
Et ce soir, au moment où je vous parle, il n'y a plus que 700 correcteurs sur 175 000, donc ça fait 0,35%, sauf erreur, qui ont décidé de ne pas rendre leur copie. Mais je veux concentrer mon attention sur ces 99% de personnes qui font leur travail de service public et qui dont le travail ne doit pas être masqué par le travail de sabotage que certains ont essayé d'entreprendre.
Yann Algan, vous êtes enseignant à Sciences Po. Hein. Le langage de fermeté, c'est la bonne méthode?
Alors, je pense qu'il n'utilise pas uniquement un langage de fermeté. Hein. Il utilise aussi un langage de confiance pour reprendre son vocable. L'école de la confiance, c'est quand même son programme. Et je pense, moi, pour ma part, que ces réformes portent une véritable ambition. Elles portent une ambition au niveau du bac en proposant différentes spécialisations, 11 spécialités différentes pour sortir de cet enfermement dans les séries traditionnelles. Maintenant, on va pouvoir valoriser différents talents qui pourront prendre aussi bien des arts, de la biologie, du numérique. Oui. Donc ça, c'est vraiment bien. Il a lancé aussi des vraies réformes.
Vous saluez un petit peu le travail du ministre depuis le début du quinquennat, finalement.
Oui, je trouve que c'est aussi quelqu'un qui a porté vraiment une vraie ambition pour lutter contre les décrocheurs, pour essayer aussi vraiment, avec le dédoublement des classes de 6e, de redonner des compétences à ceux qui sont les plus défavorisés. Donc, bien sûr, comme dans toute réforme, il y a des ajustements, c'est clair. Mais je crois que le programme autour de la confiance à l'école qu'a porté le ministre porte une vraie ambition.
Claire Hédon, le mot sabotage, féroce quand même.
Oui, je rebondirai pas forcément sur le mot sabotage, si vous permettez. Moi, j'avais plutôt envie de vous parler de ceux qui n'ont pas le baccalauréat, c'est-à-dire des 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire tous les ans. C'est vrai que je salue aussi la question du dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires. C'est certainement une très bonne chose pour lutter contre l'échec scolaire. En ce moment, ce qu'on constate à ATD Quart Monde, c'est que les enfants qui sont orientés vers des classes SECPA, ULIS, qui sont pour des personnes, des enfants en situation ou de handicap ou de difficultés scolaires, l'immense majorité, si ce n'est plus de 95%, sont issus de familles en grande pauvreté. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? Si on prend les SECPA, il n'y a qu'un tiers qui a un CAP au bout du compte. Et nous, ce qu'on veut là, c'est mener une expérimentation dans un certain nombre d'écoles, et on démarre en septembre, pour éviter cette orientation. Et est-ce qu'on réussirait à ce que, justement, ces jeunes réussissent mieux dans le système scolaire, et qu'on n'ait pas 100 000 jeunes sans aucune qualification au bout du compte?
Il faut faire porter l'effort sur ces jeunes-là. Hein. C'est ce que vous dites.
Ça me paraît indispensable, parce qu'on a l'impression du coup d'être de plus en plus dans une reproduction de la pauvreté. Les enfants de familles en situation difficile ont du mal à apprendre, du coup sont en échec scolaire, du coup ont du mal à trouver du travail. Il faut absolument inverser la tendance.
Alors je vais vous faire encore réagir, mesdames. D'abord, je vous ferai écouter ce que dit ce professeur hein, qui, au fond, cette professeure, elle est professeure de philosophie dans le lycée du 5e arrondissement de Paris. Elle réagit à l'attitude du ministre de l'Éducation.
On nous accuse d'être des terroristes preneurs d'otages, mais en réalité la rétention de copies, si nous la pratiquons, c'est difficile, on n'est pas serein. Moi je suis maman d'un candidat au bac, qui est solidaire parce qu'il comprend les raisons de ma lutte. On donne beaucoup d'argent parce qu'on nous retient un 1/30 de salaire par jour de grève. J'ai l'impression que nous sommes face à des gens absolument sans scrupules, qui sont capables de mépriser les lois, les règlements, et que donc il est tout à fait possible que des élèves n'aient jamais leurs notes.
Sophie de Menton, que répondez-vous à cette personne, cette professeure qui... Il y a quand même des soucis au sein de l'éducation nationale.
Je ne lui réponds pas parce que son discours est absurde.
Vous dites absurde.
Il est absurde. Je pense que on a un ministre, et d'ailleurs pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, on a un ministre qui fait preuve de fermeté. Oui, c'est vrai. Et je crois que nous avons besoin de ça. Les parents d'élèves en ont besoin. On ne peut pas continuer. On veut réformer la France, on veut réformer l'éducation, et on ne peut pas continuer à céder à la moindre opposition. Or, nous sommes un pays qui s'oppose aux réformes par des moyens. C'est une pseudo-grève, parce que c'est pas vraiment une grève. Pas corriger les copies, c'est innovant. Et on peut considérer, sont-ils en grève ou ne sont-ils pas en grève? D'ailleurs, le ministre a eu l'air de considérer qu'il l'était et qu'il ne serait donc pas payé.
Vous avez un avis tranché quand même sur la question.
Ah, très tranché. Oui, oui. D'abord, je pense que Blanquer, justement, génère la confiance. Les parents ont confiance dans Blanquer. Je crois que ces syndicats, qui sont des interlocuteurs légitimes, ont quand même fait baisser le niveau de l'éducation nationale depuis des années de façon considérable, et on est arrivé à un bac qui ne vaut plus rien.
Virginie, oui, alors voilà, on a bien compris votre avis. Mais Virginie Pradel, il faudrait quand même peut-être restaurer une forme de dialogue entre le ministère, le ministre et les enseignants.
Il y en a quand syndicats. Même du dialogue, et au-delà de la réforme que je trouve aussi salutaire, la méthode employée est déplorable. Enfin, je le dis en tant qu'enseignante, enfin, l'université, mais ça change
quelle
rien.
Quelle méthode? Vous parlez de quoi?
Mais la rétention de notes. Enfin, quand on est professeur, on accompagne quand même des élèves. On sait le stress qu'ils vivent à passer un examen tel que le baccalauréat. Mais comment on peut employer des méthodes comme ça? Et moi, je suis profondément choquée. Enfin, et je pense que tous les enseignants responsables le sont. On peut pas jouer comme ça avec l'avenir des élèves. Regardez, on en est à inventer des notes pour des élèves. Enfin, c'est juste intolérable, et je pense que, enfin, j'espère que ces personnes seront davantage sanctionnées, parce que je trouve qu'ils font vraiment honte à la profession. Enfin, c'est peut-être dur ce que je dis, mais
oui,
je
c'est un avis particulièrement tranché, comme celui de Sophie de Menton. On va rester sur les questions d'éducation, mais on va aborder la question sur le fond du baccalauréat. 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénech.
La Californie frappée ce jeudi par un tremblement de terre, sa magnitude 6,4 selon le centre américain de veille sismique. L'épicentre se situe à 240 km au nord de Los Angeles, pas plus de précision pour le moment. Elle chute du 10e étage d'un immeuble à Limoges, une enfant de 2 ans est ce soir entre la vie et la mort. Les faits se produisent en fin d'après-midi vers 17h30. La fillette aurait échappé à la surveillance de ses parents. Dans l'enquête sur les fuites survenues à l'occasion de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat, 4 personnes sont toujours en garde à vue. Deux d'entre elles, un homme et une femme de 37 ans, sont arrêtés depuis aujourd'hui. L'arrivée de l'ex-patronne du FMI à la tête de la Banque Centrale Européenne est-elle une bonne chose? 63% des Français ont une bonne opinion de Christine Lagarde. Pour autant, ils ne souhaitent pas que l'ancienne ministre revienne dans le jeu politique national. Résultat ce soir de notre sondage au Doxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. À l'Euro féminin de basket, les Françaises décrochent leur ticket pour leur 6e demi-finale d'affilée. Elles ont battu ce soir la Belgique 84-80.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Une partie des enseignants s'inquiète tout de même. Fallait-il réformer le baccalauréat? Voici les arguments de Guillaume Larrivé. Il est député Les Républicains de Lyon, candidat à la présidence de LR sur LCI ce matin.
Je ne suis pas favorable à la réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer parce que je suis contre cette idée du contrôle continu. Titre personnel, moi-même j'ai fait mon baccalauréat il y a bien longtemps, il y a 25 ans, dans un lycée, dans les Yvelines, qui n'était pas un grand lycée. Et je pense que si on avait pris en compte mes notes de contrôle continu, peut-être qu'on aurait considéré que ça ne valait pas la même chose que Louis le Grand ou Henri IV où j'étais pas élève. Moi je suis pour l'égalité, je suis pour le caractère anonyme des examens, je suis pour l'idée que grâce à l'école de la République, on peut progresser, avancer, dans la vie, grâce à l'école.
Yann Algan, vous avez évoqué tout à l'heure les points, certains points des réformes de Jean-Michel Blanquer. Les avis sont assez partagés sur ce baccalauréat.
Bon, toute réforme est sujette à question. Mais maintenant, j'aimerais réagir sur deux points. Premier point, il est clair que si on veut redonner confiance dans le système, dans la société aux Français, il faut vraiment qu'il y ait un socle, que notre éducation puisse servir à tous, qu'on lutte contre les décrochages, et ça, je pense que ça a été pris à bras-le-corps. Maintenant, sur la question du baccalauréat, il me semble que ce député n'est pas complètement informé de toute la réforme, ou en retient uniquement une partie. La clé de la réforme est de dire il va y avoir sur du contrôle continu les parties de socle, d'accord, telles oui. que le français. Ensuite, vous allez choisir des spécialités, vous en choisissez trois en première, que vous passez, d'accord, c'est donc vraiment des épreuves, et puis vous en gardez deux en terminale. Et vous avez le choix entre 11 spécialités. Pourquoi est-ce que le ministre a mis en place cette réforme? Justement avec l'ambition d'arrêter le formatage, de proposer à chaque fois aux parents et aux élèves uniquement une orientation, par exemple, en filière scientifique, même s'ils étaient bons en arts, s'ils étaient bons en économie, s'ils étaient bons en histoire, ça faisait des élèves qui devaient absolument aller en terminale S, parce qu'autrement, ils n'avaient pas de débouchés. Là, on a fait le choix de pouvoir, enfin, le ministre a fait le choix avec cette réforme, de pouvoir vraiment donner une palette de choix beaucoup plus importante, d'ouvrir aux talents. Maintenant, c'est aussi à l'université, aux autres écoles, à pouvoir aussi jouer le jeu et à retenir aussi un peu une plus grande diversité de talents et ne pas reprouver que des profils un peu monochromes.
Claire Hédon, pour poursuivre ce que dit Yann Nalgan, il faut faire évoluer tout le système éducatif, notamment le baccalauréat.
Oui, et puis cette question de la diversité me paraît essentielle. Je pense que nous, puisque j'ai une autre casquette, c'est aussi d'être journaliste à RFI. On a des questions à se poser sur la façon dont on recrute dans un milieu très uniforme qui pense à peu près la même chose. Et je pense que ça devient indispensable de recruter dans la diversité sociale et culturelle, dans les deux sens. Et je pense que ça
social
se travaille.
Social est très important.
Oui, et le social est très, me paraît très important. Et nous, je vous répète à quel point on voit sur des personnes défavorisées comment se reproduit cette question de la pauvreté. Et je pense qu'il faut sortir de ce cycle-là.
Sophie de Menton.
Oui, alors, c'est vrai, j'espère que cette réforme, en plus, dans cette diversité qui est appréciable, va s'ouvrir vers une revalorisation des filières manuelles, des métiers. Moi, j'aimerais une université de la main, que ce soit les métiers d'art, les métiers de le talent des gens qui travaillent avec leurs mains. Il faudrait le mot université pour le mettre au niveau des autres. Et il faudrait qu'on arrête aussi, en France, et les parents, là, sont responsables, cette espèce de snobisme du bac. Il y a aussi, et le fait de l'ouvrir et d'avoir de nombreuses matières va peut-être arrêter va faire une éducation plus large qui permettra au bout du compte peut-être dans quelques années que ce ne soit qu'une formalité vers une formation beaucoup plus générale et qui continue jusqu'à l'âge de 20-25 ans.
En tous les cas, les résultats du bac c'est demain, mais ce feuilleton n'est pas tout à fait achevé. Allez, on va parler de confiance ou plutôt de défiance au cœur du dernier sondage Odoxa d'Intsou Consulting pour France Info Le Figaro sur la nomination des nouveaux dirigeants des instances européennes, réalisée hier et aujourd'hui auprès d'un millier de personnes en ligne, des dirigeants plutôt bien accueillis à la tête de l'Europe, qui n'est plus forcément source d'espoir. Écoutez Gaël Sliman, le président de Doxa.
Aujourd'hui, quand on demande aux Français s'ils perçoivent la construction européenne comme une source d'espoir, ou bien comme une source de crainte, ou bien comme ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire on est dans la désillusion, le bof, on n'a plus que 30% des Français qui nous disent « Eh bien moi, je vois la construction européenne comme une source d'espoir ». Juste pour situer les choses, il y a un peu plus de 15 ans de ça, 16 ans précisément, en 2003, la première fois que cette question était posée, 61% des Français nous disaient « Je vois la construction européenne comme une source d'espoir ».
Virginie Pradel, 30%, ça s'appelle vraiment de la défiance. Qu'est-ce qui manque à cette Europe ?
Peut-être un peu plus de pédagogie et montrer les aspects positifs de l'Europe qui sont nombreux, hein, les échanges que ça permet, l'ouverture. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un climat de défiance. On pointe toujours les aspects négatifs, hein, parce qu'il y en a, mais on les met systématiquement en avant et on oublie tous les aspects positifs. Et il faut faire beaucoup plus de pédagogie. Alors Macron est un petit peu seul aujourd'hui à en faire, malheureusement. Il faudrait ça, parce que malheureusement, si ça continue, si on continue sur cette lancée, on va se retrouver avec ce qu'il existe dans ce pays.
Est-ce que c'est la défiance envers l'Europe, ou est-ce que c'est la défiance envers une bureaucratie et une classe politique qui s'étend à l'Europe? Moi, j'ai l'impression que la désaffection, c'est qu'on n'a pas confiance dans les hommes qui sont à la tête de ces institutions. On ne peut plus supporter, effectivement, le temps de décision, la bureaucratie qui bloque tout. Et j'ai l'impression que c'est ça, la révolte des Français. C'est pas tellement le concept européen. Ils sont certainement pas contre. Ils n'aiment pas cette Europe telle qu'elle fonctionne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont contents des gens qu'on vient de nommer.
Yann Nalgan, si l'on cherche ce qui manquerait aujourd'hui à l'Europe, de quoi s'agit-il? D'un gouvernement économique peut-être? D'une harmonisation fiscale, sociale? De quelque chose de plus cohérent entre les 28? bientôt 27.
Oui, bien sûr, je pense qu'on manque vraiment d'un gouvernement économique et on manque d'une vraie réflexion au niveau européen sur la façon dont on arrive aussi à protéger l'ensemble des citoyens européens face aux dérèglements de notre monde. Pour dire les choses différemment et simplement, la montée des forces anti-système, de gauche radicale ou de droite populiste, se sont vraiment nourries de la défiance vis-à-vis des institutions et surtout des institutions européennes face à leur incapacité à pouvoir répondre justement à ces grandes crises. On a constaté la première grande chute de confiance dans l'Europe à partir de la crise financière. C'est là où en fait les pays du Sud, les pays méditerranéens qui avaient une très grande confiance ont vraiment lâché. Ils se sont mis à se retourner complètement vis-à-vis des institutions européennes. Et puis après, à l'aune de la montée des inégalités sur la question de la mondialisation où on ne trouvait pas de réponse adaptée, effectivement, la défiance a été très forte. Donc, il y a une Banque Centrale Européenne dont Madame Christine Lagarde va prendre la tête, qui a toutes les compétences, et la BCE, la Banque Centrale Européenne, a été d'une certaine façon la seule institution à faire un peu le job pendant la crise. En revanche, nous n'avons pas d'harmonisation fiscale, nous n'avons pas de ministre des Finances européen, nous n'avons pas de politique budgétaire, mais il manque absolument. La Banque Centrale Européenne ne peut pas faire ça seule si on veut avoir des projets ambitieux d'investissement dans l'avenir, dans le numérique, dans l'éducation, dans l'écologie, dans le développement durable, il faut absolument une coordination sur ces points.
Claire Hédon, d'ATD Quart-Monde, elle vous parle cette Europe aujourd'hui ?
Mais oui, bien sûr, mais on peut comprendre que les plus défavorisés soient inquiets. Moi, je vais vous parler particulièrement des 5 millions de personnes qui vivent en France avec moins de 850 euros par mois. C'est quand même énorme comme chiffre, 5 millions de personnes. Oui, elles n'ont pas confiance, et d'ailleurs ce qui les caractérise souvent, c'est la peur. Parce que c'est la peur de perdre le peu d'emploi qu'on a quand on en a, de perdre son logement parce qu'on n'arrive plus à payer, parce que quand on est au RSA, 550 euros APL comprise, c'est 480 euros. Comment vous faites pour payer votre loyer ? On est avec des familles qui sont trop pauvres pour habiter des logements sociaux. Vous vous rendez compte où on en est ? Donc comment voulez-vous que ces personnes-là aient confiance, mais dans la France et dans l'Europe, dans une situation comme celle-là, où leur quotidien est fait de peur et de ne pas réussir à payer les factures à la fin du mois ?
Et pour compléter votre propos, c'est ce que dit notre enquête Odoxa Dentsu Consulting. Si elle continue de faire rêver les cadres et les Français les plus aisés, l'Europe ne génère plus que désillusions ou craintes au sein des catégories populaires et des jeunes actifs. Voilà qui conforte votre discours, Claire Hédon. 20h et 20 minutes sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
La fillette de 2 ans tombée du 10e étage d'un immeuble à Limoges est morte. C'est ce qu'indique la police. Le drame s'est déroulé en fin d'après-midi. L'enfant aurait échappé à la surveillance de ses parents. Entre stress et colère autour des résultats du bac publié demain matin, une grève des correcteurs pourrait perturber l'édition 2019. 700 n'ont pas encore remis leur copie. Si la situation perdure, les notes de contrôle continu des élèves concernés seront utilisées pour établir la moyenne. Le ministre de l'Éducation assure ce soir que tous les élèves auront demain leurs résultats. Vigilance orange activée dans le bassin lyonnais Nord-Isère en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. La circulation différenciée des véhicules est mise en place. Seules roulent les voitures et deux roues munies de vignettes critères de 1 à 3. Deuxième recrue au Paris Saint-Germain. Le club de football champion de France la saison dernière s'attache les services de l'Espagnol Ander Herrera. C'est un milieu défensif. Il jouait jusqu'à présent pour Manchester United.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Pour notre enquête Odoxa Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, le fait d'avoir nommé 2 femmes à des postes clés à Bruxelles contribue sans doute à cet assez bon accueil. 53% des Français estiment que c'est une bonne chose. Mais surtout, les Français sont enchantés par la nomination, vous l'évoquiez à l'instant, Yann Algan, de Christine Lagarde. 63% d'entre eux ont une bonne opinion d'elle. Voici ce qu'on a dit tout à l'heure Nathalie Loiseau, l'eurodéputée chef de file de La République En Marche, invitée du 19-20 politique.
C'est une femme d'expérience, c'est une femme qui a une dimension internationale forte. C'est quelqu'un qui est capable à la fois de conduire la BCE, de lui garder son indépendance. Et c'est important d'avoir une banque centrale indépendante. Donc oui, c'est un très bon choix.
Un très bon choix, Sophie de Menton ?
Alors oui, bien sûr. Sauf que on l'a enlevée du FMI. Moi, j'étais très fière qu'elle soit à la tête du FMI. On l'a enlevée pour la mettre là. Et on a un peu l'impression quelquefois qu'on manque d'un personnel politique de grande qualité comme elle, et que finalement, quand il y a des bons, on cherche à les déplacer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi qui on va mettre.
Et c'est
à
plutôt une bonne nouvelle qu'elle arrive à la tête de la BCE. Yann Algan rappelait, c'était quand même le bras armé au fond de la politique, qui ressemble à une politique européenne économique.
Oui. Hein. Oui. Oui. Oui, donc de toute façon, elle est effectivement favorable, libre-échangiste, elle est pro-entreprise, elle est très à l'aise, c'est tout bête, mais elle parle un anglais parfait. Je veux dire, elle a toutes les qualités pour ça.
Yann Elgan ?
Alors, ce n'est pas les seuls arguments que je retiendrai pour qualifier ses compétences. Je pense vraiment, il y a un point important à souligner dans la carrière de Madame Lagarde, c'est elle a changé un peu la doctrine du FMI, accompagnée d'un remarquable économiste, Olivier Blanchard, qui dans les moments de crise, heureusement que vous aviez cette équipe à la tête du FMI, qui tout de suite a pris la mesure de la crise financière et a commencé à vraiment avoir des politiques volontaires aussi bien de relance budgétaire et de demander aussi à l'ensemble des banques centrales de mettre en place ce qu'on appelle du quantitative easing, enfin en tout cas pour vraiment aider à relancer l'économie. Donc on a une personne non seulement remarquable par les compétences, mais une personne qui a vraiment traversé les crises, des crises absolument vraiment effroyables au cours de ces dix dernières années et qui a su faire preuve d'un pragmatisme et d'une capacité de réaction sans commune mesure, me semble-t-il, à la tête du FMI.
Virginie Pradel, sur l'arrivée de Christine Lagarde, bonne, mauvaise nouvelle, selon vous, à votre goût ?
Bonne nouvelle, je pense que c'est une personne plébiscitée, une personne appréciée de par ses compétences. Hein. J'ai rien de spécial à ajouter sur la question de Christine Lagarde, qui est une experte reconnue.
Et pourtant, les Français ont des doutes sur cette Europe, une forme de défiance clairaidant. Si l'on regarde un cas d'école, tenez, on a évoqué récemment la direction de Conforama qui confirme la suppression de 1900 postes, la fermeture de 32 magasins en France, Conforama qui a été racheté par un groupe sud-africain. Les Français ont la sensation, et pas seulement les Français d'ailleurs au sein de l'Europe, qu'il y a Bruxelles et puis au fond il y a le réel, il y a ces usines qui ferment en permanence et on a la sensation que les pouvoirs de chaque pays n'y peuvent rien.
Il y a une grande inquiétude sur cette question du chômage et une des premières choses que je voudrais dire, c'est que les personnes en situation de précarité veulent travailler parce que c'est le moyen d'être inséré dans la société. Est-ce que vous me laissez une minute pour expliquer notre expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée ? Le chômage de longue durée coûte à l'État 43 milliards d'euros par an. C'est à peu près 18 000 euros par personne. Ce n'est évidemment pas ce que les personnes touchent. Il y a un tiers de minima sociaux, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de taxes et de cotisations d'impôts et un tiers de dépenses à plus long terme dans lequel il y a la santé et entre autres la réussite ou l'échec scolaire. Et bien cet argent, on a eu une loi en 2016, territoire zéro chômeur de longue durée, dans 10 territoires, petits territoires, 5 000 à 10 000 habitants, on a créé des entreprises à but d'emploi. À but d'emploi, pour des travaux utiles
à la
société. Et ça marche. Il y a 800 personnes embauchées sur 10 territoires pour des travaux hyper utiles à la société dans l'accompagnement des personnes, dans la protection de l'environnement, qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Et ce qu'on veut démontrer par cette expérimentation, c'est que ça ne coûte pas plus cher à l'État. Et l'autre point très positif, c'est que les personnes privées d'emploi ont tout de suite adhéré au projet, veulent travailler, et ça change la vie de gagner le SMIC plutôt que d'être au RSA.
Sophie de Menton, vous validez ce que dit à l'instant Clairédon, j'imagine.
Alors, je ne suis pas sur la même ligne de réflexion par rapport à ça. Moi, je vais parler entreprise. Cette entreprise n'a pas investi.
Mais ce sont des entreprises.
Oui, non, mais d'abord, la destruction créatrice, ça existe. Ce groupe s'est planté. Le cours de bourse a chuté parce qu'il y avait eu des irrégularités et donc ça a entraîné cette chute. Ils n'ont pas investi. Donc, Conforama, c'est un échec entrepreneurial. Donc, si vous voulez, je comprends très bien tout ce que vous dites et sur le désir, effectivement, le zéro chômage, je veux dire, d'expérimentation, mais il y a quand même une réalité de gestion managériale et une réalité des entreprises qui, voilà, c'est à côté, c'est pas le même plan exactement.
On montre que personne n'est inemployable.
Absolument. Sur un cas comme Conforama, Yann Elgan, l'État doit mettre la main sur le dossier, il doit intervenir ou pas ?
Je pense que le problème est plus large. Premièrement, laissez-moi juste insister sur un point, sur effectivement, c'est des drames humains. On ne parle pas suffisamment, me semble-t-il aussi, de la majorité de ceux qui perdent un emploi, pas du fait de licenciements massifs comme ça, mais en particulier des jeunes, qui à chaque fois enchaînent des périodes d'intérim ou des CDD. Je vous rappelle quand même que plus de 70% des transitions de l'emploi vers le chômage, ce sont ces personnes en situation précaire. Maintenant, sur la situation de Conforama, il me semble que ça dit deux choses. La première, c'est qu'effectivement, dans cette révolution numérique, cette révolution digitale, ce genre d'entreprises doivent trouver à s'adapter. Le deuxième point, c'est que les 30 magasins qui ferment sont justement des magasins dans les territoires et dans des territoires où ont été mobilisés les Gilets jaunes. C'est Dreux, c'est Montauban. Or, il va falloir vraiment réfléchir à la façon dont on arrive à maintenir de l'activité et à réindustrialiser et avoir des lieux de socialisation dans ces territoires si on ne veut pas avoir à nouveau une crise des gilets jaunes.
Allez, nous allons rester sur ces questions d'ordre économique dans la deuxième partie des Informés de France Info, mais nous marquons une pause avec la météo, le rappel de l'info. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite des Informés.
Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, deux points, ouvrez l'info. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et les prévisions d'Élodie Calac pour Météo France.
La chaleur va s'accentuer demain sous le soleil. Il sera déjà bien installé le matin, juste quelques nuages possibles vers le Pays Basque et le Roussillon, vite oublié. Les températures minimales iront de 12 à 23 degrés, 12 à Amiens, 16 à Paris, 19 à Nantes et à Lyon, 23 degrés à Nice. L'après-midi, toujours beaucoup de soleil, deux bémols tout de même. En montagne, quelques nuages joufflus et une averse possible. Et puis près de l'océan, là, des nuages élevés viendront parfois blanchir le ciel. Ils pourraient donner une ondée ici ou là et parfois un coup de tonnerre en soirée. Les thermomètres grimperont entre 24 et 38 degrés, 24 à Saint-Malo et Deauville, 27 à Cambrai, 31 degrés à Paris, Nancy et Nice, 33 à Angers ou à Dijon, 36 degrés à Limoges, Clermont-Ferrand, Montélimar, 37 pour Agen et jusqu'à 38 à Toulouse. Le week-end sera plus instable, parfois orageux entre le Poitou, le Limousin, le Jura et les Alpes, et les températures baisseront progressivement par l'ouest.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Quel sera le véritable impact de la réforme de l'assurance chômage pour les demandeurs d'emploi? Dans une note interne que France Info s'est procurée, l'UNEDIC, l'assurance chômage, présente un premier chiffrage des différentes mesures annoncées le mois dernier par le gouvernement. Le nombre de chômeurs qui va perdre des droits serait bien plus important que ce que laisse entendre le ministère du Travail, Sarah Lemoine.
En présentant la réforme de l'assurance chômage il y a un peu plus de deux semaines, le ministère du Travail avait livré son estimation. Selon lui, 600 000 à 700 000 chômeurs devraient être pénalisés par l'ensemble des futures règles s'ils ne changent pas leur comportement, c'est-à-dire s'ils ne cherchent pas plus activement un travail. Sauf que ce chiffrage est bien inférieur à celui de l'UNEDIC. Dans une note interne que France Info s'est procurée, l'UNEDIC écrit qu'à comportement inchangé, 1 200 000 chômeurs devraient voir baisser le montant de leur allocation du fait de la nouvelle règle de calcul du salaire journalier de référence, les plus pénalisés étant ceux qui alternent petit boulot et période de chômage. Autre conséquence, 500 000 chômeurs verraient leur droit à indemnisation annulé ou retardé à cause du durcissement des conditions d'accès à l'assurance chômage et du rechargement des droits. Contacté par France Info, l'UNEDIC souligne que ces deux chiffres ne peuvent être additionnés et que les chiffrages définitifs seront communiqués en septembre après la publication des décrets d'application.
Sarah Lemoine, près des deux tiers des Français, 63% précisément, salue la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE, la Banque Centrale Européenne. C'est ce que montre le sondage Odoxa Danse Consulting pour France Info et Le Figaro publié ce soir. À Reims, le parquet ouvre une enquête pour meurtre aggravé. Un homme d'une trentaine d'années est en garde à vue. Il aurait tué sa compagne dans la nuit de mercredi à jeudi en la percutant avec sa voiture dans un camp de gens du voyage depuis le début de l'année. 70 cas de féminicides ont eu lieu en France. La Californie, secouée ce soir par un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter. Le séisme a été ressenti dans un vaste périmètre. L'épicentre a été localisé à environ 240 km au nord-est de Los Angeles, par près de 9 km de profondeur. On ignore à l'heure qu'il est s'il y a des victimes ou des dégâts. Canal+, dans la tourmente, confronté à une concurrence exacerbée et une érosion de ses abonnés, le groupe de télévision s'apprête à tailler dans ses effectifs en France avec un plan de départ volontaire. Porté portant sur au moins 500 postes, soit près de 20% de ses effectifs dans l'Hexagone. Le projet devrait être présenté en début de semaine prochaine aux représentants du personnel de Canal. L'Assemblée adopte le projet de loi de taxation des GAFA. Il vise à instaurer une taxe sur les activités des géants du numérique, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple, qui créent de la valeur grâce aux internautes français. Le texte devra encore être soumis au Sénat jeudi prochain.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec Claire Hédon, présidente d'ATD Carmonde et responsable des programmes de RFI, avec Yann Algan, doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po, vous êtes économiste et membre du Cercle des économistes, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, et avec Virginie Pradel, présidente de l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban. Allez, je vais vous parler de deux acronymes qui deviennent célèbres, CETA et Mercosur. Les nouveaux dirigeants européens héritent de deux accords de libre-échange très controversés. Il faut se donner plus de temps avant de les signer, a expliqué ce matin l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin sur France Inter.
L'honneur de la France, ce serait de dire, eh bien écoutez, on a changé d'époque. L'Europe aujourd'hui a des devoirs à accomplir, faisons en sorte de nous donner plus de temps pour avoir un examen raisonné et raisonnable de ces textes. Nous le devons à la population européenne. L'Europe doit réécrire l'histoire. On est passif devant l'histoire. C'est vrai en matière diplomatique, c'est vrai en matière économique. Nous devons reprendre notre destin en main. Et si le macronisme est le nouveau monde, eh bien qu'il donne l'exemple.
Virginie Pradel, il a raison, Dominique de Villepin. Il faut prendre son temps avant de signer ces deux grands accords de libre-échange.
Oui, dans tous les cas, il faut bien analyser les intérêts de la France. Donc ça, c'est il y a de la négociation hein, derrière tous ces accords. Après, il faut pas vilipender les accords en tant que tels de libre-échange. Dès lors qu'il ne faut pas oublier que si on refuse le libre-échange, ça va aussi forcément impacter tous les producteurs français qui ont besoin d'exporter sur des marchés étrangers. Ils sont très nombreux parce que le libre-échange, c'est dans les deux sens et on a un peu tendance à l'oublier. C'est vrai que là, on entend beaucoup les agriculteurs et bien sûr, on partage leur désespoir parce que c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes avec les agriculteurs en France, mais enfin, la solution qui est la solution de facilité et qui est la solution un peu émotionnelle de dire on bloque les frontières, il faut quand même avoir conscience que ça impacterait des dizaines de milliers de producteurs français.
Et pourtant, Claire Hédon, le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot dans Le Monde. Vous êtes d'accord avec lui?
Il y a quand même une vraie question. Est-ce que ces accords sont compatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique et la justice sociale? On a quand même de grands doutes là-dessus. La grosse question aujourd'hui, c'est celle-là. On sait tous que les personnes les plus défavorisées sont les premières victimes du réchauffement climatique. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elles sont aussi victimes des mesures qui sont prises à la fois pour lutter contre ce réchauffement climatique ou bien pour y pallier. Est-ce que vous me permettez de donner un exemple? La construction du Grand Paris en ce moment, l'arrivée du métro, qui est une très bonne chose dans des banlieues un peu plus éloignées. Qu'est-ce qui se passe? Rénovation du quartier, augmentation des loyers, exclusion des plus pauvres encore plus loin, qui eux n'ont pas de moyens de transport. Donc si on ne réfléchit pas sur tous ces accords, sur la savoir si c'est compatible avec la question de la lutte contre le réchauffement climatique et avec la justice sociale, on n'ira pas très loin.
Yann Algan, pour poursuivre ce qui est dit à l'instant, ne faudrait-il pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ne plus encourager les pays peu regardants sur l'élevage, les pesticides, privilégier les circuits courts? Tout le monde dit ça aujourd'hui et pourtant nous signons de grands accords qui inquiètent les populations.
Oui, et je vais vous décevoir parce que je pense que c'est vraiment le sujet où souvent les économistes sont aux antipodes des opinions et des émotions des citoyens. Et je pense qu'on devrait...
Vous êtes décrié souvent dans ce type de débat.
Est extrêmement décrié, c'est même le sujet où... En général, ou en tout cas au cours de ces dernières années, les économistes s'accordaient pour dire « Écoutez, la mondialisation, le commerce permet quand même de créer des emplois, permet de créer de nouvelles opportunités de richesse. » Et je vous rappelle juste là que quand même l'ensemble des exportations hors de l'Union européenne ont créé plus de 4 millions d'emplois en France. D'accord, il y a 4 millions d'emplois qui dépendent directement de ce type de commerce. Donc oui, il y a des gains potentiellement économiques, mais il y a deux choses que les économistes, et je plaide coupable, ont minimisé au cours de ces dernières années. La première, c'est que, un, le commerce a des effets redistributifs extrêmement importants. Il y a des gagnants, mais il y a aussi des perdants. Donc, il faut savoir aussi comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui sont vraiment impactées. Mais surtout, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a maintenant une demande qui n'est pas juste une demande économique, une demande écologique, une demande de justice sociale, qui était complètement absente avant des accords commerciaux de l'OMS. Donc maintenant, et c'est effectivement peut-être le nouveau monde, je le dirai pas avec le souffle de Villepin, mais dans le nouveau monde, effectivement, l'ensemble des accords commerciaux sont assortis de clauses qui respectent les accords de Paris. Donc,
mais est-ce que ces clauses sont contraignantes ou pas? En l'occurrence, j'ai l'impression que sur ces deux accords, elles ne sont pas contraignantes.
Justement, pour le CETA, il n'y a pas de clause là-dessus. Donc, il faut, alors même s'il faut minimiser aussi un peu l'impact du CETA en termes d'exportation de bovins et de volailles en provenance du Canada, pour le moment, ça reste limité. Mais ces clauses ne sont pas inscrites autant. Et du côté du Mercosur, oui, il y a une clause, mais avec quelles contraintes lorsqu'on signe avec le Brésil, qui a été qui a à la tête quelqu'un d'une droite populiste assez dur, et deuxièmement, qui a été impacté par un scandale sanitaire, un pays qui a été impacté par un scandale sanitaire il y a quelques années et dont on peut douter de la fiabilité.
Puisque vous parlez du Brésil, les trois quarts des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en France, et puis il y a la déforestation massive de l'Amazonie. Le même Nicolas Hulot rappelait que c'était un impact assez important sur le dérèglement climatique. Sophie de Menton, la croissance à tout prix, c'est le seul moteur de l'économie mondiale, la croissance?
Alors d'abord, il faut quand même prendre les grands principes. Moi, je suis une libre-échangiste. Le libre-échange dans le monde a apporté la paix, et on ne peut pas retourner vers un protectionnisme. Et c'est encore plus absurde, le protectionnisme face à l'enjeu planétaire, effectivement, du réchauffement de la planète. Donc ça, il faut oublier. Ensuite, ça tombe à un moment curieux. Cet accord a été mal vendu. Je pense que...
La lutte pour le climat n'est pas forcément protectionniste.
Non, elle peut pas être protectionniste, la lutte contre le climat. Parce que le climat, il est planétaire. Je veux dire, on peut pas tout d'un coup faire... moi, je veux bien faire mon tri toute seule avec mes petites bouteilles plastiques, mais je vais pas sauver la planète. En revanche, par exemple, le Brésil, oui, vous avez raison, la déforestation est quelque chose de terrifiant, qui, moi, me touche énormément. Et c'est justement dans un accord libre-échangiste qu'on a un poids sur le Brésil là-dessus. On a bien dit dans les accords qu'il fallait l'arrêter, ils s'y sont engagés, et c'est un moyen de faire pression. Ensuite, on a quand même des douanes qui vont contrôler les produits interdits, vont continuer à l'être. Donc, ce sont des sujets vraiment difficiles, mais je pense que les positions, tout d'un coup, les positions de peur et de repli sur soi-même ne sont pas des solutions.
Allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
700 enseignants n'ont à cette heure-ci toujours pas rendu leur copie du bac, révèle ce soir le ministre de l'Éducation. Des correcteurs sont en grève pour faire ouvrir les négociations sur la réforme du baccalauréat et du lycée. Jean-Michel Blanquer qualifie le phénomène de marginal mais gênant. Il assure que demain matin, tous les candidats pourront consulter les résultats de l'examen. L'Organisation internationale des migrations chiffre à plus de 80 le nombre de réfugiés portés disparus au large de la Tunisie. Leur embarcation a chaviré lundi en mer Méditerranée, dit l'un des trois rescapés de cette catastrophe. Pas de victimes ni dégâts rapportés à la suite d'un tremblement de terre aujourd'hui en Californie. De magnitude 6,4, son épicentre a été localisé au nord-est de Los Angeles où il a été ressenti. En tennis, il n'y a plus de Françaises au tournoi de Wimbledon. Pauline Parmentier et Kristina Mladenovic sont éliminées. Chez les hommes, qualification de Tsonga et de Lucas Pouille qui au troisième tour affrontera le Suisse Roger Federer.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, ce sujet devrait vous plaire. Une toute nouvelle police fiscale, une quarantaine d'effectifs attendus, a été mise en place pour mieux lutter contre la fraude. Présentation, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics sur RTL ce matin.
Ce n'est pas le ministre des Comptes publics qui donne des instructions, c'est bien un procureur, le parquet national financier ou les procureurs de la République qui saisiront, s'ils le souhaitent, ce service, comme il y a la BNRDF, comme il y a le service des enquêtes douanières, comme il y a la police judiciaire. Il y a un nouveau service qui est à disposition de la justice et qui aura surtout l'arme de la spécificité. Vous savez, la fraude fiscale, c'est compliqué. La fiscalité, c'est compliqué. Et aujourd'hui, les voleurs sont plus ingénieux que les policiers. Ou les gendarmes, ou les douaniers. Parce que, simplement, il faut être très technicien pour repérer des grands montages frauduleux.
Alors, Virginie Pradel, c'est nécessaire, cette nouvelle unité est installée à Ivry-sur-Seine, je crois.
Hein, oui, c'est une nouvelle unité, hein, parce que la police fiscale, donc BNRDF, existait déjà. Le problème, c'est qu'on est dans une division des services. Hein. Il aurait mieux fallu avoir une seule police fiscale avec des vrais effectifs.
Vous voulez dire qu'il va y avoir une guerre des polices fiscales?
Ah, c'est à craindre. Bah, c'est l'avis d'un responsable, enfin du responsable syndicat Solidaires Finances Publiques. Et d'ailleurs, quand vous lisez les rapports de ce syndicat, c'est assez effarant parce que quand on lit les moyens qui sont mis à disposition de la BNRDF, donc la première police fiscale qui existe déjà, c'est effarant.
Mais est-ce qu'elle était efficace cette première?
Elle n'était pas du tout efficace. Il nous explique qu'en fait, les personnes n'avaient pas accès à la documentation fiscale. Donc déjà, la fiscalité, c'est compliqué. Donc en plus, quand vous n'avez pas accès à la documentation, ça devient vraiment très compliqué. C'est des personnes qui apparemment n'avaient pas de voiture pour se déplacer. Enfin, c'est quand même c'est assez drôle de les lire. Hein. Ça donne la mesure en fait de la lutte contre la fraude fiscale en France. Et le vrai problème, c'est qu'en fait, il y a un retard énorme dans la lutte contre la fraude à la TVA. Hein. Qui est celle qui impacte le plus les finances publiques. Là, on parle de milliards d'euros, on parle pas du boucher qui sort 1000 euros du tiroir caisse. Et là, on a beaucoup de retard, on a beaucoup de retard par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que ça fait des années, en fait, que Bercy ne veut pas s'équiper d'un logiciel dont se sont équipés les autres pays comme l'Italie, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient créer le logiciel.
Est-ce que c'est une révolution, là, sous nos
yeux? C'est pas du tout une révolution, c'est une nouvelle unité. On ne règle pas du tout le problème majeur, qui est un problème français, qui n'existe pas dans les autres pays, à savoir qu'on a une indépendance des procédures fiscales et pénales. On a une dissociation des deux, alors que dans les autres pays, je prends l'exemple par exemple des États-Unis, alors là ils sont très efficaces, vous avez tout qui est concentré dans un système qui s'appelle l'IRS, c'est-à-dire qu'ils font les contrôles fiscaux, et quand ils voient que vraiment c'est du lourd, hein, entre guillemets, que vraiment ça doit partir au pénal, vous avez une unité très active qui va prendre le dossier en charge et gérer ça de bout en bout. En France, en fait, vous avez des unités un petit peu partout. Vous allez avoir une partie du dossier qui va être gérée par l'administration fiscale, l'autre par les services pénaux. Après, vous allez
donc pas... vous ne pensez pas que c'est forcément la bonne approche pour lutter efficacement contre la faute fiscale?
C'est une avancée, mais le problème, c'est qu'on voit qu'on reste dans une division des luttes. En fait, il vaudrait mieux avoir grand service tout monde à Bercy et qu'on arrête avec cette dissociation des unités.
Bon, ça ne plaît pas à Virginie Pradel. Alors, ces policiers vont pouvoir géolocaliser, ils vont pouvoir perquisitionner, mettre en garde à vue sous l'autorité d'un magistrat, hein, faire des auditions, mettre sous écoute, saisir les avoirs, les biens qu'ils vont découvrir. Claire, et donc, quel est le message qui est envoyé à travers ces annonces fracassantes?
Moi, je suis heureuse qu'on parle pour une fois de fraude fiscale et pas de fraude sociale, parce que je pense qu'il y avait urgence à rattraper l'équilibre. Certes, il faut, sur la fraude sociale, aussi lutter contre la fraude sociale, mais ça devient insupportable comment on la montre du doigt, alors que la fraude fiscale, si on luttait contre,
apporterait tellement plus et passait sous
les radars. Donc du coup, je suis heureuse que pour une fois, on parle de cette fraude fiscale et qu'on arrête de se polariser sur la fraude sociale qui finalement est une... Enfin, nous, le Conseil d'État en 2011 avait dit « la fraude des pauvres est une pauvre fraude ».
La fraude des pauvres est une pauvre fraude.
C'est pas des milliards d'euros en fraude sociale. Par contre, c'est des milliards d'euros
en fraude
fiscale. L'un n'exclut
pas l'autre. La fraude sociale est inexcusable et doit aussi être traitée. Elle est sous-traitée.
Je ne vous ai pas
France.
Du tout dit qu'il fallait dans pas lutter ouais. contre la
non,
fraude
non,
sociale.
J'ai compris,
je vous ai dit qu'on n'est juste pas dans les mêmes ampleurs et que pour une fois, on parle de fraude fiscale.
Sophie de Menton, on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant, finalement. Parce que ça fait longtemps qu'on parle
de l'évasion
fiscale.
Parce que d'abord, c'est une idée sans intérêt. Donc déjà,
qu'est-ce qu'une idée sans intérêt?
On crée un service de plus, c'est pas le sujet. Le vrai
mais
sujet aussi.
Contre la fraude fiscale,
il faut
est quand
lutter.
Même un vrai
mais
sujet,
lutter, d'abord, moi, je m'inquiète énormément et je pense que, alors là.
Qu'est-ce qui vous dérange?
J'ai toujours un regard patronal. Je suis scandalisée de voir les patrons qui fraudent et je pense que les patrons et le MEDEF et Éthique le disent et protestent. Il y a une augmentation évidente et ça, c'est quand même quelque chose. Il y a une autodiscipline aussi. À avoir. On ne joue pas forcément aux gendarmes et aux voleurs. Et ensuite, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la complexité de notre fiscalité qui fait que l'abus de droit, c'est quand même un concept extraordinaire. Il y a du droit, mais quand on abuse du droit, on est coupable.
On applique trop bien la loi.
Donc on a une complexité dingue qui fait qu'il y a d'ailleurs des gens très connus, des grands patrons qui ont pignon sur rue, qui juste, ils ont un contrôle, ils vont payer 20 millions d'euros pour qu'on arrête le contrôle et puis on n'en parlera plus. On va pas les citer, mais je trouve que ce sont des méthodes qui sont absurdes. En nom de quoi? C'est des espèces de cellules de dégrisement. Bon, vous arrêtez mon contrôle, vous n'avez pas de casier et je paie.
Bon.
Donc il y a déjà, je pense que d'un point de vue éthique, d'un point de vue de prise de conscience de cette fraude patronale, c'est bien le cas, il faut faire quelque chose. Alors maintenant qu'il y ait des flics en plus, en moins, très bien.
Alors Yann Algan, on a bien compris les arguments de Sophie de Menton. 80 à 100 milliards d'euros d'impôts selon le syndicat solidaire finances publiques échapperait chaque année à l'État. Fourchette surévaluée, diversifiée. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de chiffres. On lance des chiffres en général. On ne sait pas vraiment quel est le volume de cette fraude. Mais malgré tout, si ça se chiffrait en dizaines de milliards, ça rendrait quand même, ça ferait du bien aux caisses de l'État.
Oui, bien sûr. Il y a un manque à gagner extrêmement important. Mais je pense aussi que au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect symbolique extrêmement important. Lorsqu'on parle de confiance, c'est clair que si les Français sont parmi les citoyens les plus défiants vis-à-vis des élites, vis-à-vis des riches, c'est parce que effectivement, ils pensent que ces richesses soit sont mal acquises, soit qu'il y a la possibilité d'avoir des niches fiscales et qu'il n'y a pas de contrat social. Tout le monde essaye un tout petit peu de tricher et que les personnes un peu plus fortunées ont obtenu leur fortune sans respecter l'ensemble des règles. Ce qui est faux en majorité, mais tant que vous maintiendrez une suspicion et que vous n'aurez pas une transparence sur le recouvrement de l'impôt, surtout pour ces grandes fortunes, on minera le contrat social. Donc je pense que l'ambition est importante.
C'est la thématique des rencontres d'Aix-en-Provence qui débute demain. Renouer avec la confiance, Cléridon.
Mais vous n'avez pas donné de chiffres. On est à quoi dans cette fraude fiscale? On est à 80 milliards? On est à 100 milliards?
Mais on est à 20% de plus en tout cas.
Oui, alors j'ai pas alors, d'un peu meilleur chiffre que vous, mais effectivement, ils sont autour de 100 milliards. Donc ça veut dire,
mais
si vous voulez.
Vous vous rendez compte par rapport à la fraude sociale, la comparaison?
Non, mais en fait, il n'y a pas du tout d'évaluation sérieuse. On estime ça à peu près 2-3% du PIB dans tous les pays. Ils considèrent que c'est le niveau de fraude fiscale. Alors,
Virginie Pradel, vous comprenez l'indignation de Cléridon?
Je peux comprendre, mais je pense que en fait, il y a comment dire.
Parce que c'est vrai que le discours sur la fraude sociale est récurrent et celui sur la fraude fiscale est plus rare. Voilà, c'est ça qui est dit.
Ah, vous trouvez? Je pense qu'on en parle. En parle beaucoup. Ouais. Et je tiens quand même à rappeler que la loi fiscale n'est pas faite par les contribuables, que ce soit les ménages ou les entreprises. Elle est faite par des parlementaires qui font preuve d'une désinvolture folle. C'est pour ça qu'on a autant de niches fiscales. Les niches fiscales, c'est quand même un naufrage parlementaire à la base. Ils cèdent à peu près tout et n'importe quoi. Donc j'ai envie de dire que cette complexité en fait pénalise tout le monde, mais qu'elle profite à ceux qui peuvent l'utiliser, malheureusement ou heureusement, les plus aisés. Mais il faut arrêter de jeter l'opprobre sur ces personnes qui ne font qu'appliquer la loi. La faillite est une faillite étatique et européenne aussi, parce qu'au niveau de l'Union européenne, on est dans un système de concurrence complètement fou et non régulé. Et là est le vrai problème. Et la fraude fiscale, c'est extrêmement exagéré aujourd'hui.
En tous les cas, 40 policiers, et ça fait sourire Yann Elgan, pour amener 100 milliards, c'est quand même un pari un peu compliqué. On verra. Allez, on va attendre quelques mois de le temps qu'ils s'installent.
J'espère qu'ils auront des voitures.
Et qu'ils agissent. Oui, ils auront tout ce qu'il faut. Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
A-t-il, près de Reims, un homme d'une trentaine d'années est soupçonné d'avoir tué sa compagne. La nuit dernière, il l'aurait percuté avec sa voiture. Le trentenaire est en garde à vue depuis le début de l'année en France. Il y a eu au moins 70 féminicides. C'est nous qui défendons le service public, un bac qui reste national et un lycée qui offre les mêmes formations à tous les élèves. Voilà ce que dit ce soir sur France Info le secrétaire général du SNES-FSU, premier syndicat d'enseignants. Une réponse au ministre de l'Éducation qui parle de sabotage en évoquant la grève en cours de certains correcteurs du bac. Les saisies de tabac de contrebande en forte hausse. Le ministère des Comptes publics parle de 142% d'augmentation par rapport au premier semestre 2018. Au 30 juin, les douanes ont mis la main sur 197 tonnes de tabac. Sixième demi-finale consécutive pour les Françaises à l'Euro de basket. Aujourd'hui en quart, les Bleus ont battu à Belgrade la Belgique. Score final 84-80.
France Info. 20h-21h, les informés. Jean-François Aquili.
Ayez confiance, que disent les économistes du spectacle permanent millénaire de la politique à la recherche d'une improbable confiance. Illustration, Mounir Majoubi qui rallie Cédric Villani dans la course à l'investiture La République En Marche à Paris. Le numérique allié aux maths pour tenter de battre le favori Benjamin Griveaux. Écoutons Cédric Villani sur BFM TV ce matin.
Ce que je dis au président, c'est, voilà, je suis occupé à construire le meilleur projet, à rassembler, à construire un projet qui sera loyal à la République En Marche, au cœur des valeurs de la République En Marche, et qui rassemblera depuis l'écologie sociale jusqu'à la droite progressiste. Un projet où se rallieront, où ce que soutiendront, où seront, où se reconnaîtront des gens aussi variés que ceux qu'on a cités, allant de Gaspard Ganser à Pierre-Yves Bournazel, avec les forces vives aussi de la République En Marche, et des gens qui comptent. Des gens qui ont laissé leur marque, pas par des mouvements d'appareil, mais parce qu'ils ont su incarner quelque chose.
Yann Algan, très sincèrement, quel effet cela vous fait de voir la médaille Fields en 2010 descendre ainsi dans l'arène politique ?
Non mais c'est quelqu'un intellectuellement que j'admire beaucoup, donc est-ce que je peux passer cette question ? Non, j'aime vraiment beaucoup le personnage, et intellectuellement j'aime beaucoup cette personne. Maintenant je pense au-delà de ce cas particulier, c'est vrai qu'il y a quelque chose de dérangeant un tout petit peu, parce qu'on a l'impression d'être tombé en fait sur de la politique habituelle, on aurait pu avoir exactement
ce que les Italiens appellent la politiquelle.
Voilà, et donc c'est quand même, alors que il y avait l'ambition portée de pouvoir avoir une voix beaucoup plus consensuelle, d'avoir de se battre sur les projets, non pas sur les personnes. Bon, on a une image un peu différente, mais si je voulais aller juste un peu au-delà de ce cas précis. Je pense qu'il se pose quand même une vraie question pour La République En Marche à l'heure actuelle, aux élections européennes, quand même, 2/3 des électeurs étaient des électeurs de droite et 1/3 de gauche. Donc vous avez eu un basculement, hein, c'est exactement l'inverse, au moment des élections présidentielles. Donc la grande question qui va se poser quand même au président Emmanuel Macron, c'est jusqu'à quand il peut vraiment, d'une certaine façon, jouer avec les frontières, comme ça, entre les différentes mouvances. Il a décidé de ne pas le faire à Bordeaux, en nommant quand même Thomas Cazenave un candidat face au candidat qui est proche de Bayrou et le successeur de Juppé. Okay. Mais on voit bien que au-delà, je crois qu'il se serait bien passé de ses querelles personnelles, mais qu'il a une question encore plus importante qui va être celle de vraiment jusqu'à quand il va être capable de pouvoir coaliser aussi bien des forces de droite et de gauche, tout en brouillant d'une certaine façon un peu l'image et certainement à ses dépens.
Sophie de Menton, sur ces questions de bisbilles parisiennes, quand on voit par exemple ce sondage, c'est encore Odoxa qui dit ce matin Emmanuel Macron qui demeure le président des riches pour 75% des Français, il y a quelque chose de l'ordre de la défiance pour le coup.
Oui, on n'aime pas les riches, on n'aime pas les riches. Je veux dire, les riches, ils créent de l'emploi, ils créent des entreprises. On a la troisième fortune mondiale avec Bernard Arnault. Et le lendemain,
c'est
on
votre
se
credo,
scandalise.
Ça, je rappelle à nos auditeurs hein, sur le
classement d'air du challenge. Voilà. Oui. Et
classement
donc bon, on va président des riches, c'est dommage, oui, mais c'est pas ça. Je pense que c'est inexact. En revanche, le Premier ministre a bien expliqué, puisqu'on parle des prochaines élections municipales, qu'il fallait laisser, il fallait pas mettre forcément quelqu'un qui venait des Républicains ou de la droite, il fallait pas forcément mettre quelqu'un contre lui. Je pense qu'aujourd'hui, il essaie de rassembler, et c'est vrai que tous les sujets qui nous préoccupent et que nous évoquons sont des sujets qui devraient être transversaux. Et d'ailleurs, si on a voté pour Emmanuel Macron, c'est qu'on en a un peu marre de voir systématiquement la droite qui est contre ce qu'on fait dans l'éducation nationale parce que c'est le gouvernement qui le fait. Enfin, on n'en est plus. Les sujets sont trop complexes pour ça. Alors, je respecte également pour Paris, effectivement, Villani. Je suis un peu inquiète parce que il a un côté quand même très original. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faudrait à la tête. C'est un grand intellectuel. J'aimerais mieux le voir ministre, d'ailleurs. Mais alors, c'est peut-être son araignée, les cheveux longs et la lavalière qui, tout d'un coup, me disent « Mais qui est-ce ?» Oui. Il m'intrigue.
Allez, ça c'est l'avis de Sophie de Menton. Claire Hédon, pour poursuivre ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Yann Algan, quand on voit la politique aujourd'hui qui, au fond, reprend ses droits, c'est-à-dire que on nous avait promis il y a 2 ans quelque chose qui allait changer pour justement rétablir la confiance des citoyens parce que ça impacte beaucoup les esprits, vous avez la sensation aujourd'hui qu'on est dans une forme de répétition des choses ?
Oui, moi je ne vais pas rentrer dans la politique politicienne parce que je pense que les questions de lutte contre la pauvreté, lutte contre le réchauffement climatique doivent largement dépasser la question des partis politiques. Quand vous parlez, Sophie de Menton, de la question, vous aimez pas le terme de président des riches, moi je peux simplement vous dire que depuis 2 ans, les seuls qui ont perdu en pouvoir d'achat, c'est les 8% les plus pauvres. Est-ce que vous trouvez que c'est normal d'un président de la République qui, il y a 1 an, en septembre, annonce une volonté dont nous, on était très contents, d'éradication de la grande pauvreté, parce qu'on est dans un pays riche et on doit pouvoir y arriver, et tout ce qui est fait derrière va à l'encontre, finalement, de ça, et on est plutôt dans une situation qui appauvrit les plus pauvres. On a sincèrement de quoi être inquiet. Et nous, ce qu'on demande, c'est une évaluation de toutes les politiques publiques, de toutes les nouvelles lois, à partir des 10% les plus pauvres et au regard des objectifs de développement
je
durable.
Je comprends, mais on n'éradique pas la pauvreté comme ça. Je veux dire, je
non,
comprends ce que vous dites. Bien sûr que je regarde.
Les plus pauvres. Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est la réalité de ce qui se passe. Oui. Donc, il faut absolument aujourd'hui avoir un curseur qui est la question des 10% les plus pauvres et des objectifs de développement durable et la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Si on garde ces deux boussoles, on va pouvoir avancer.
Allez, quelques mots encore avec vous deux, hein, avec Claire Hédon, avec Yann Algan. Demain, donc, démarrage de ces rencontres rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec cette thématique, on le rappelle avec vous, hein, renouer avec la confiance. On a égrené un petit peu le thème tout au long de cette émission. C'est quand même une gageure. Hein. C'est, voilà, il va falloir quand même se relever les manches et peut-être, ce n'est pas encore fait. Hein.
Oui, c'est une gageure. Pour vous, c'est une gageure, mais je pense qu'effectivement, ces rencontres tombent à point nommé. Il y a effectivement une forte défiance des institutions, des citoyens vis-à-vis de leurs institutions. Mais je pense aussi qu'on est dans un temps de dégradation du rapport à autrui. Pour reprendre un peu le mot de Victor Hugo qui disait le pire ennemi de la démocratie, c'est la solitude. Dans nos sociétés post-industrielles, on est aussi extrêmement seul, seul au travail, seul dans les territoires. Et il va falloir trouver des politiques adaptées à ce monde post-industriel si on veut lutter contre les forces anti-système.
Merci à vous Yann Algan, merci à Claire Hédon, merci Sophie de Menton et Virginie Pradel. Pour ma part, je vous retrouve bientôt dans les Infos Métro. Demain soir, ce sera avec mon ami et camarade de Noé Da Silva. Bonne soirée à vous.